Après les braises du mois d'août, comme l'a écrit un journaliste du Washington Post, après l'été du mécontentement, des surprises, des chocs et des crises, l'été des émeutes consuméristes et multiethniques de Londres, l'été du dernier sursaut de la Libye vers sa liberté, l'été de l'angoisse européenne et mondiale sur la dette, l'été des massacres de Syrie, des famines dans la Corne d'Afrique, du déroulement quasi-final du feuilleton DSK, l'été de Sarkozy, Merkel, Obama. Enfin, l'été est maintenant derrière nous et ce soir, nous continuons notre rentrée littéraire sur Radion en compagnie d'un député, maire du 18e arrondissement de Paris, ancien ministre des Relations avec le Parlement, ancien ministre de l'Intérieur du gouvernement Jospin entre 2000 et 2002. Daniel Vaillant, bonsoir et merci.
Bonsoir, merci à Radio Yon et à vous, monsieur Petit, de m'interroger pour cette rentrée.
Alors effectivement, vous avez fait paraître il y a quelques moi un livre aux éditions de l'Archipel qui a pour titre PS 40 ans d'histoire avec un S à la fin d'histoire, parce que finalement beaucoup d'anecdotes, beaucoup de portraits, parfois aussi quelques pics. Vous passez finalement en revue 40 ans de l'histoire de la gauche socialiste à partir, enfin, vous parlez de vous bien sûr, de votre engagement aussi aux côtés de la gauche et surtout de François Mitterrand et puis Lionel Jospin, Claude Estier et Bertrand Delanoë, ce qu'on a appelé la fameuse bande des quatre à Paris, mais on y reviendra au cours de notre entretien. Permettez-moi Daniel Vaillant donc de rappeler que vous êtes nivernais puisque vous êtes bourguignon, né à Lormes en 1949, avec un père qui était ouvrier mécanicien, qui était issu d'une famille plutôt communiste, très anti-gaulliste, on y reviendra, ça a d'ailleurs été un des points communs avec votre père, c'est votre anti-gaullisme, et puis une maman originaire d'un milieu paysan, alors elle aussi dans une famille plutôt socialisante. Alors franchement, Daniel Vaillant, vous étiez bien encadré déjà.
Je n'ai donc aucun mérite à être de gauche. Et c'est ce que je crois d'ailleurs, parce que c'est vrai que le milieu familial me poussait à être de ce côté-là, épris de justice sociale. C'était vraiment le but. Je me souviens de mon père me dire en 58, quand De Gaulle est revenu, sur fond de guerre d'Algérie, jamais un militaire, jamais un religieux à la tête du pays. Donc, républicain, bien évidemment, engagé, ancien prisonnier de guerre, ayant beaucoup souffert en Allemagne. Mon père m'a indiqué le chemin et donc je n'ai effectivement pas grand mérite. Et il est vrai que François Mitterrand a incarné en 1965, pour le petit Parisien que j'étais devenu en 1958, un émigré à Paris, un émigré du Morvan. C'est pas bien loin, mais enfin, la sociologie n'est pas la même, la manière de vivre. Et donc j'ai été séduit à la fois par la candidature de l'Union de la gauche de François Mitterrand, et puis par ses capacités, ses dons d'orateur que je trouvais tout à fait séduisants. Et d'ailleurs, mettre De Gaulle en ballottage et puis finir à 45% au deuxième tour était un signe très encourageant. Et c'était surtout semblé, parce que hélas ça n'a pas duré, mettre un terme à la guerre socialo-communiste qui datait des années 20 et que la guerre n'avait pas du tout cicatrisé. Et la suite nous aura démontré qu'il existe bien plusieurs gauches en France et que c'est encore le cas aujourd'hui, même si le parti socialiste est aujourd'hui le parti dominant à gauche.
Alors il faut expliquer donc que si vous connaissez si bien le 18e arrondissement de Paris, c'est parce que vos parents quittent donc leur Morvan dont ils sont originaires. Pour votre père va être ouvrier chez Renault, c'est ça?
C'est cela. En 58, mon père avait déjà des difficultés, des séquelles de la guerre, et donc il peinait à se traîner sous les voitures, au froid, dans le garage. Et de surcroît, il n'y avait pas de collège à Lormes dont j'étais natif. Et donc, il fallait mettre le gamin en pension. Et donc, mes parents se sont dit, après tout, pourquoi ne pas monter à Paris? Et donc, ma mère n'avait été sans profession. Et donc, ce choix a été fait. Mon père est rentré effectivement chez Renault comme ouvrier, même s'il est ensuite devenu petit cadre, comme on dit, agent de maîtrise chez Renault. Et ma mère est devenue caissière à prise unique. Et ils ont trouvé un petit appartement dans le 18e qui fait que c'est l'arrondissement où en 58 nous sommes arrivés et où je suis toujours, puisque nous n'avons jamais quitté le 18e. Et moi particulièrement, j'y ai fait mes études, je me suis marié, j'ai eu mes enfants et j'en suis aujourd'hui le maire depuis 1995. Voilà, il n'y a pas, c'est pas un parcours, je dirais, c'est pas une aventure, avec beaucoup d'anicroches, hein, c'est assez simple. On va à Paris, je fais mes études, je m'installe dans le 18e, je suis quelqu'un de fidèle en amitié, en politique, mais aussi j'aime ma terre du Morvan, où j'aime à retrouver ma nouvelle famille fondée ici. Et j'aime aussi mon 18e, que j'essaie de travailler avec mon équipe municipale pour le rendre plus harmonieux, plus harmonisé, je dirais, pas uniformisé, mais les quartiers du 18e sont différents. Entre Montmartre et la Goutte d'Or où j'habite, il y a quand même encore un monde, et on voit bien le prix du mètre carré n'est pas le même. Voilà, eh bien, c'est aussi ma manière d'être socialiste, c'est-à-dire de mettre en œuvre, comme maire, mes idées, mes convictions, parce que je crois que le socialisme, on en a besoin à l'échelon de la planète, de l'Europe et de la France, mais ça commence aussi par la commune, le lieu où les gens vivent, et il faut mettre en avant un certain nombre de convictions, de valeurs et de politiques pratiques. Voilà pourquoi, dans le 18e, je suis depuis 1958, et voilà pourquoi, en 65, j'ai choisi, je dirais, Mitterrand, puis le parti d'Épinay, parce que entre 65 et 71, il s'est écoulé 6 ans, et je décris dans cet ouvrage la manière dont Mitterrand s'est saisi des institutions de la 5e, de l'élection présidentielle, avec quelques erreurs, à mon avis, commises, notamment en 68, mais qu'il a bien saisi, qu'il a analysé, qu'il a compris, et il s'est dit, sans un grand parti politique, sans inverser le rapport de force avec le Parti communiste, la gauche n'y arrivera pas. Eh bien, il a eu cette intelligence de construire un parti, d'en faire un parti fort. Il a inversé le rapport de force avec le PC, et qui mieux que lui ne pouvait incarner, cette gauche qui sérieuse, cette gauche de gestion, comme ce fut le cas à partir de 1981.
Alors, Daniel Vaillant, vous avez voté pour la première fois en 1973.
Oui, parce que vous savez que la majorité était à 21 ans. Et donc, mon premier vote, je crois que je l'ai émis pour le référendum de 1972, au moment où il fallait faire rentrer la Grande-Bretagne dans le marché commun. Voilà, où Mitterrand avait préconisé de ne pas participer au vote, ce qui fait qu'il était sûr de gagner.
Alors, vous dites aussi, vous rappelez notamment qu'en 1946, le candidat à la députation, François Mitterrand, a tenu sa première réunion publique dans le bistrot de votre arrière-grand-mère, la mère André, oui, qui était aubergiste donc à Athée,
voilà,
juste à côté de là où nous sommes.
Et voyez, là, c'est une maison qu'on voit d'ici. C'était une auberge où j'ai vécu ma jeunesse, mes vacances. Et c'était une auberge avec une petite bonne femme qui faisait tout, l'épicerie, les congés. Vous savez, les congés, c'était notamment pour le blé qu'il fallait porter au moulin. Et tout ça se faisait avec des papiers, il y avait une régie. Mais c'était aussi les commerçants qui s'arrêtaient, mangeaient, couchaient. C'était une vraie auberge. Et la mère André, donc ma grand-mère Victorine, la petite mémère, comme je l'appelais, avait accueilli Mitterrand pour sa première réunion publique en 1946. Vous savez que Mitterrand était venu dans la Nièvre sur les conseils de M. Queuil, Henri Queuil, en disant « Allez donc vous présenter dans la Nièvre ». Et Mitterrand y a fait souche, racine. Il était charentais, mais finalement, il était devenu un vrai Morvandio d'élection et de fidélité.
Alors, je vous cite, « Je continue de penser aujourd'hui, malgré les victoires de 1981 et 1988, que l'homme providentiel est une chimère pour la gauche et l'élection présidentielle un piège. »
Je le crois. Toujours. Nous sommes, vous le savez, avant les primaires au PS, avant les élections de 2012, présidentielles au singulier et législatives au pluriel. Je suis convaincu que c'est une élection difficile pour la gauche. Certes, Mitterrand a gagné en 81, parce qu'il a bien géré, bien manœuvré, conduit un parti socialiste, où il a incarné une ligne politique majoritaire. il a su gérer la deuxième gauche de Michel Rocard, et il a inversé le rapport de force avec le Parti communiste. Et malgré les réticences du Parti communiste de Georges Marchais, notamment pour réactualiser le programme commun 78, l'électorat communiste ne voulait plus d'une droite au pouvoir depuis 23 ans, sans discontinuer, et avec... je dirais le conservatisme, l'injustice sociale qu'elle incarnait. Mais malgré cette victoire et la réélection de Mitterrand dans un contexte particulier, Chirac étant un mauvais Premier ministre avec un mauvais bilan de deux ans, de 86-88, cette élection est difficile pour la gauche. La gauche, comme je vous l'ai déjà dit, est historiquement divisée, diverses, il y a encore des communistes, il y a maintenant des écologistes, il y a encore des gauchistes ou des trotskistes, il y a des socialistes, il y a aussi des radicaux. Et tout ça conduit, bien sûr, chacun à vouloir être candidat à l'élection présidentielle. Et ça conduit souvent la gauche à se diviser. Et on l'a vu diaboliquement en 2002 avec Lionel Jospin. Son échec au premier tour, son élimination, vient de là. Même si il y a aussi des éléments de campagne et un mauvais calibrage, je dirais, de cette campagne par le candidat lui-même et ceux qui dirigeaient sa campagne. C'est une élection difficile et pourtant Ségolène Royal en 2007 a été élue à 60% par le vote des militants, elle avait le parti derrière elle, elle avait au début une crédibilité qui lui permettait d'envisager de gagner et elle n'a pas gagné. Et pas uniquement de sa faute. Il y a eu des aléas, des mains tendues clandestinement, nuitamment presque, notamment au centre de François Bayrou. Bref, elle n'a pas réussi à gagner. Alors que tout le monde disait, en 2007, ça va gagner après le drame de 2002, le drame démocratique. Et ça n'a pas fonctionné. Voilà pourquoi je pense qu'en 2012, il ne faut pas que la gauche loupe ce rendez-vous. Je pense que un candidat ou une candidate socialiste soutenue par les radicaux de gauche et, je l'espère, le petit mouvement des citoyens de Jean-Pierre Chevènement, même s'il y a une candidate Eva Joly pour les écologistes et Jean-Luc Mélenchon pour le Parti communiste, je pense que c'est les bonnes conditions qui permettent de l'emporter. Encore faut-il que les socialistes se dotent de là ou du bon candidat, qui fasse le bon parcours, qui connaisse bien l'attente des Français. Voilà, moi, dans le livre, je n'ai pas développé mon choix, parce que je ne voulais pas m'inscrire dans cette affaire des primaires que je trouvais inadaptée à la France d'aujourd'hui. Ceci étant, elles sont décidées, je l'écris dans le livre, il faut qu'elles soient réussies. Maintenant que ce dispositif est en marche, j'ai choisi François Hollande, et je dis pourquoi, parce que je crois qu'il incarne, je dirais, celui qui peut faire la gagne, et moi je veux en 2012 que la France change, que la France se renforce, qu'elle rétablisse ses équilibres, et notamment budgétaires, mais qu'elle le fasse sur fond de justice sociale. Et je pense que Hollande est le mieux à même de battre Nicolas Sarkozy.
Je vins au monde, je n'avais rien dans la tête, c'est drôle, j'avais tout dans les gants verts. Rue de Bagnolet, près de la rue des Pyrénées, quand je suis née, hop là. Sur un long corps, une curieuse petite tête, une longue tige, une vraie fleur de pâquerette, le pied cambré, pas besoin d'être prophète pour deviner, hop là, qu'à l'âge où l'on joue encore à chat perché, sur les tabourets, au bord du chat qui pêche, mes gambettes gainées de soie noire, déjà je me perchais, hop là. Je n'ai pas dansé les rondes enfantines, au bois joli sonnait les matines, à pas de loup, et déjà sans peur du loup, à 15 ans je trottinais. J'ai pas de tête, mais j'ai des jambes qui me portent, me rapportent. J'étais en pull, point virgule, je dégaine ma dégaine. Enfant, j'avais l'âme pieuse et je rêvais d'être un jour une petite sœur du bon Dieu. Ben, je suis petite sœur d'amour. Venez à moi, venez donc mes frères, pourvu qu'on y croit. À chacun sa prière, Dieu m'a donné la foi et le savoir-faire, qu'il soit loué. Hop là! Venez à moi, venez, Dieu vous le pardonne. Ce soir, c'est Noël, dans le cœur des hommes. Quelle est jolie la messe qu'on danse à minuit au creux de son lit. Hop là, si vous vous êtes musicien, je sais la messe en ré. Si vous êtes général, je vous ferai le défilé. Si vous êtes poète, je vous réciterai la petite chanson de Verlaine. Si vous aimez les marins, je serai mousse, comme dit la chanson. Je vous ferai ça en douce, venez mes frères. Je ne suis pas cultivée, mais j'ai des connaissances. Rien dans la tête, tout en jambes, je trottine et mutine. Douce, douce, pas farouche, je dégaine ma dégaine. Au métier, je suis petite sœur d'amour, infatigable. Je vais de nuit et de jour. Quand on n'a pas de tête, il faut avoir des jambes, c'est bien connu. Hop là. Et que m'importe que ce soit le pauvre ou le riche, pour moi les hommes sont égaux, je m'en fiche. Comme c'est écrit, il faut aimer son prochain, j'aime le mien. Hop là. De mon enfance, j'ai gardé l'âme pieuse, bien sûr. Je ne suis pas vraiment religieuse. Chaque jour auprès de vous, mes chers frères, je graine mon rosaire. Entrez mes frères, entrez, c'est l'heure où l'on prie. Ensemble nous aurons notre paradis. Ensemble nous monterons au septième ciel. Hop là, hop là, hop là.
Hop là, interprété par Barbara. Parti socialiste, 40 ans d'histoire, tel est le titre du dernier ouvrage de notre invité. En effet, ce soir dans Wagon Livre, nous accueillons Daniel Vaillant, député et maire du 18e arrondissement de Paris.
Alors, revenons, si vous le voulez bien, à l'élection de François Mitterrand, ce célèbre, désormais célèbre 10 mai 1981. François Mitterrand, lui, est à Château-Chinon, à l'hôtel du Vieux Morvan. Et vous, vous êtes où, Daniel Vaillant, le 10 mai 81?
Alors, je vais vous dire, le 10 mai 81, je fais ma tournée des bureaux de vote dans le 18e, puisque je suis le responsable, je dirais, socialiste du 18e, secrétaire du comité d'arrondissement, et proche de Lionel Jospin, comme chacun sait, et donc du nouveau premier secrétaire. Je quitte le 18e vers 18h pour aller rue de Solferino, où j'ai des responsabilités aux côtés de Jospin. Et rue de Solferino, vers 18h20, on a les premières estimations des célèbres instituts, l'IFOP, la Sofres et autres, Louis Harris, qui nous indiquent que Mitterrand l'emportera autour de 52%. Les choses semblent sérieuses. Voilà, je suis là avec Jospin, avec Fabius, avec Poprenne, avec Quilès et quelques autres. Et Fabius, je le redis dans le livre, ne peut pas s'empêcher que d'aller à la fenêtre, où il y a déjà une foule rassemblée rue Solferino, et en gros, il fait un signe du pouce en disant « c'est bon ». Alors c'est une clameur. Je le dis à Jospin, je dis « écoute, il faut qu'il fasse attention, on vote jusqu'à 20h, il ne faudrait quand même pas qu'on ait des ennuis ». Voilà, mais une anecdote, disons, il ne pouvait s'empêcher d'être celui qui apportait la bonne nouvelle au peuple de Paris. Après, je suis remonté dans le 18e, je ne voulais pas, en arrivant auprès des militants socialistes dans le siège de la section du 18e rue de Trétaigne, je ne voulais pas dire que je savais, moi. J'ai préféré laisser le suspense jusqu'au moment où j'empirais le cabache à la télévision à 20h, fait tomber le résultat. François Mitterrand, on voit son visage se découvrir. C'était, avec Giscard et lui, deux calvities. Mais on voit bien quand même que c'est la calvitie de François Mitterrand qui apparaît et progressivement son visage complet à la télévision. François Mitterrand est élu président de la République. Ça reste pour moi, je dirais, la soirée la plus essentielle que j'ai vécue de ma carrière de militant, d'élu et de responsable politique.
C'est une des plus grandes joies politiques avec votre élection également en tant que maire du 18e
arrondissement. Oui, je le dis dans le livre. D'abord, c'est un moment d'émotion, un combat long, une admiration pour François Mitterrand qui là, est en train de trouver aboutissement. Mon père, qui n'était pas quelqu'un qui s'est penché facilement, on a les larmes aux yeux, il me dit « Merci de m'avoir permis de revivre une victoire de la gauche comme je l'ai vécu en 36, je ne pensais pas que ça arriverait. »
Il a pleuré comme Mendès France a pleuré dans les bras de Mitterrand.
Voilà. Et donc, ça a été une soirée mémorable. Ensuite, je suis parti à la Bastille. Ensuite, j'ai traversé Paris à pied par la rue de Rivoli. Un orage arrive, le ciel est bleu marine, les éclairs embrassent devant l'hôtel de ville. Je passe sur le pont de la Concorde, je vois des CRS dans des camions, je me dis, moi je n'étais pas encore un expert de la police, je me dis les CRS ils sont de droite. Imbécile comme, mais bon, j'en suis là. Et je me dis, il doit faire la tête. Et quand je passe devant les camions, ils sont en train de boire de la bière, de célébrer la victoire, et faisant le vœu de la victoire, eux aussi étaient contents du changement. J'arrive rue de Solferino, une foule énorme, et quand vers 1h du matin, la R30 marron de François Mitterrand arrive, encadrée par les motards habillés de blanc avec la fourragère, croyez-moi, c'est un choc émotionnel. Lui, Mitterrand, garde son sang-froid. Il arrive de Château-Chinon et on sent bien qu'il a déjà le poids des responsabilités sur les épaules. Il rentre rue Solferino, il y passe un moment, mais pas très long. Le lendemain, il faut former un gouvernement, il faut dissoudre l'Assemblée nationale. Voilà, une autre histoire commence, mais pour nous aussi, une autre histoire commence.
Alors, on est obligé de passer un peu vite. On ne peut qu'inviter les auditrices et auditeurs de Radion à découvrir tous ces détails dans votre livre qui est vraiment passionnant, dont je rappelle le titre, PS 40 ans d'histoire, donc signé Daniel Vaillant aux éditions de l'Archipel, sous-titré donc du congrès d'Épinay à nos jours. Alors arrive quand même la première cohabitation, 1986, Jacques Chirac donc devient Premier ministre d'un gouvernement.
Parce que je vous rappelle, la droite dispose d'une majorité faible, mais il y a le Front National qui a fait, grâce à la proportionnelle départementale, fait son entrée, hélas.
Plus de 32 députés
lepénistes. Députés de lepénistes. Bon, je ne crois pas du tout à la thèse du Mitterrand diabolique qui a fait la proportionnelle pour permettre au Front National d'affaiblir la droite ou d'émerger dans le paysage politique français. Ceci étant, le Front National, il est là. Et moi, je préfère qu'il soit à l'Assemblée nationale que dans la rue ou dans une forme d'insurrection de l'extrême droite. Il est là et Chirac est élu Premier ministre. Mitterrand n'a pas le choix. C'est une hérésie de penser que quand il y a une majorité différente entre le président et l'Assemblée nationale, c'est l'Assemblée nationale qui décide du choix du Premier ministre. Mitterrand.
C'était la même chose pour Jospin.
Oui, tout à fait. Chirac ne pouvait pas faire autrement que de nommer Jospin. Et en 93, quand ça se reproduit, qui est-ce qui nomme le Premier ministre ? Ce n'est ni Mitterrand, ni je ne sais qui, c'est Chirac qui désigne Balladur.
Oui, parce que lui,
il le délègue, parce que lui ne veut pas y aller.
Et il veut être candidat à la présidentielle.
Voilà, et il dit à Balladur, tu es Premier ministre, et Balladur prend l'engagement de ne jamais être candidat à l'élection présidentielle contre Chirac. On voit ce que valent ce type d'engagement, puisque 2 ans après, il est candidat. Voilà, je me souviens bien de cette cohabitation de 86 à 88. Mitterrand fait preuve d'un grand sang-froid, d'une grande maîtrise. Il l'utilise, il n'empêche pas de gouverner Chirac, mais il utilise tous les ressorts que la Constitution lui permet pour notamment ne pas signer un certain nombre d'ordonnances. Il résiste. Et une anecdote, je passe sur sa candidature de 88, qui était pour moi naturelle, que je connaissais bien avant l'heure, la gestion du dossier Rocard, je dirais, de la candidature de Michel Rocard, et la campagne. Et dans un meeting de Montpellier, après ce formidable meeting de Mitterrand, on se retrouve à un pot, il y a là Charles Trenet, il y a là un certain nombre de gens qui le soutiennent. Et il vient me voir, il me dit, alors Vaillant, ça a l'air pas mal, qu'est-ce que vous en pensez ? Je lui dis, Président, oui, en tout cas c'était un beau meeting. Ah, il me dit, vous savez, je suis fatigué, puis j'en ai marre, de voir toutes ces gueules au Conseil des ministres.
Vous citez Mitterrand qui vous dit, j'en ai marre de ces gueules au Conseil des ministres, je suis si seul.
Voilà, et donc c'est la magnifique victoire de 88, sur Jacques Chirac. Voilà, je pense que Mitterrand en 88 a été bien réélu, mais qu'il a surestimé la différence qu'il avait entre Total Gauche et lui-même. Et ce qui lui fait faire une ouverture sans le dire, qui est la France Unie, où il fait rentrer un certain nombre de personnalités, dont Jean-Pierre Soissons, que je
le
connais bien, et à qui je trouve beaucoup de qualités humaines et intellectuelles et
enfin,
culturelles.
Enfin, qui a été un peu élu quand même au Conseil régional avec le.
C'est là où mon enthousiasme pour Jean-Pierre Soissons s'est nettement réfréné, quand il a fait alliance avec le Front National, en tout cas il s'est servi du Front National pour devenir président de région.
Mais Daniel Vaillant, on n'est jamais déçu que par les gens que l'on aime bien, parce que Mitterrand, votre admiration aussi, elle est un petit peu écornée, parce que vous avez été choqué et attristé par certaines des amitiés de François Mitterrand, notamment il y a eu l'affaire René Bousquet, qui était l'ancien secrétaire général de la police de Vichy.
Je là, le dis dans le livre, oui, j'ai été peiné. Je comprends cette fidélité en amitié, cette reconnaissance sans doute pour des services rendus. Je comprends cela. Mais je pense que quand on est président de la République, et je l'ai écrit, d'autres l'ont dit, je pense qu'il aurait dû se défaire de cette amitié bien avant qu'il ne l'ait fait. Il l'a fait néanmoins. Je ne doute pas de l'engagement résistant de François Mitterrand. Je ne doute pas non plus de ses engagements beaucoup plus critiquables à mon goût avant, jusqu'en 1942. Mais bon, il y a les ombres. Mitterrand, c'est la lumière, mais c'est aussi quelques ombres. Et il est bien évident que ces amitiés sont pour moi une ombre. Je parle de cette amitié-là. Il y en a d'autres qui ne me posent aucun problème. Parce que Mitterrand avait aussi, dans les combats de la résistance, rencontré des gens. Il ne me choque pas qu'il ait continué de les voir, des gens de droite y compris, hein, qui l'ont d'ailleurs défendu quand il a été mis en cause par des députés comme Toubon, Madelin et quelques autres à l'Assemblée. Je pense à M. de Bénouville, oui, qui était un vrai gaulliste et qui a défendu l'honneur de François Mitterrand en justifiant qu'il avait bien été un résistant à partir de 1942-43.
Ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuates, nec mergitures, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits castors et pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie, sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile il l'avait pas lu, mais il s'aimait toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leurs bras lançaient des SES, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, y avait pas souvent de lapin. Quand l'un d'entre eux manquait à bord, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'eau ne se refermait. 100 ans après qu'aucun de sort, il manquait encore. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord.
Les copains d'abord par Georges Brassens. Il en a beaucoup des copains au Parti Socialiste et ce depuis le congrès d'Épinay en 1971. Député et actuel maire du 18e arrondissement de la capitale, Daniel Vaillant est devant les micros de Radion ce soir pour évoquer son dernier livre paru aux éditions de l'Archipel, livre qui a pour titre « Parti Socialiste, 40 ans d'histoire » avec pour sous-titre « Du congrès d'Épinay à nos jours ».
En 88, donc, Michel Rocard est choisi par François Mitterrand pour devenir Premier ministre et dans votre livre, vous écrivez « Ma conviction » et que François Mitterrand a nommé Michel Rocard à Matignon en 1988, non seulement parce que le parti et l'opinion le souhaitaient, mais également pour l'éprouver personnellement et faire ainsi la démonstration qu'il ne pourrait jamais être président de la République. François Mitterrand, c'est aussi un stratège, un homme de la finesse politique.
Oui, finesse politique, peut-être un peu diabolique aussi à certains côtés, une malice. Je pense qu'il a nommé Michel Rocard parce qu'effectivement, il savait que Michel Rocard ne s'opposerait pas à cette ouverture pour la France unie. Il partageait les convictions de Michel Rocard, des convictions justes, sur la nécessité d'avoir une politique de gauche réaliste, et que gérer un pays, construire l'Europe, nécessitait un certain nombre de compromis. Et de ce point de vue, le Mitterrand de 88 était plus proche de Michel Rocard d'avant 81 que de ses propres convictions d'avant 1981. Et il a choisi Michel Rocard. Force est de constater que l'opinion et le Parti socialiste étaient très heureux que celui qui aurait pu être candidat à la place de Mitterrand, qui n'avait pu l'être, puisse être Premier ministre, et que François Mitterrand puisse, d'une certaine manière, boucler la boucle avec Pierre Mauroy comme premier Premier ministre, avec Laurent Fabius comme second Premier ministre. Bref, Mitterrand rassemblait. Mitterrand était un rassembleur, y compris il savait rassembler ce qu'il n'aimait pas. Ça, c'est, vous le disiez, de la finesse politique, peut-être un peu de malice, mais aussi une conviction, c'est qu'il faut rassembler pour réussir. Et ça, c'est, je crois, une des leçons qu'il faut tirer de François Mitterrand. Il savait rassembler au-delà de ses propres préférences.
C'est peut-être pour ça qu'est née cette fameuse tontonmania, cette génération
Mitterrand. Oui, dont je n'ai pas été, parce que, encore une fois, je n'aime pas la tontonmania, je n'aime pas la jospinomania, je n'aime pas, aujourd'hui, je soutiens François Hollande, je ne serai pas plus dans la hollandomania. Attention, une personne... Bon, je vais vous dire ce que je pense, c'est écrit dans le livre. L'élection présidentielle à la française est une hérésie. Voilà, une démocratie moderne, on s'en remet pas à un homme ou une femme, un peuple de plus de 60 millions de personnes qui s'en remettent à quelqu'un pour diriger. Je suis plutôt pour un équilibre des pouvoirs entre l'Assemblée qui doit contrôler le gouvernement, le soutenir ou le défier. Le Premier ministre doit tirer sa légitimité de la majorité de l'Assemblée nationale pour équilibrer les pouvoirs. Un homme seul qui dirige tout, et on l'a vu, ça c'est ma façon de voir, avec Nicolas Sarkozy, il vient de changer le préfet chargé de la sécurité à Marseille. Ça fait trois qu'il... En 2 ans, il y en a eu 3. C'est pas le job du président de la République, pardonnez-moi. Nommer les sous-préfets, nommer, toujours nommer, eh bien, ça fait faire beaucoup de bêtises, et Nicolas Sarkozy est, je crois, la démonstration qui, à plusieurs, ont fait moins d'erreurs que tout seul.
Revenons en 1988, donc Michel Rocard est Premier ministre. Il est remplacé par une femme, la première femme Premier ministre en France, c'est donc Edith Cresson. Vous écrivez d'ailleurs dans votre livre, dont je rappelle le titre PS 40 ans d'histoire du congrès d'Épinay à nos jours, aux éditions de l'Archipel, vous écrivez « Edith Cresson n'a pas démérité ». Cette première femme Premier ministre française a eu un parcours courageux.
Oui, je le crois, mais elle a été nommée dans des conditions qui ne lui permettaient pas de réussir. Ce fut le choix, le seul choix de François
Mitterrand.
Du président,
voilà, c'est ça. Vous dites qu'elle n'avait pas de légitimité.
Elle n'avait pas la légitimité
du parti.
À l'Assemblée, du parti. Dès qu'elle est arrivée, moi je l'avais rencontrée, elle m'avait dit « je ne veux plus entendre parler des courants du PS, tu comprends. Il y a les fédérations, ça je veux bien en tenir compte, départementales. J'aimerais, comme j'étais secrétaire aux fédérations, elle me dit « j'aimerais que tu sois un peu mon correspondant avec qui je peux parler du parti ». Elle voulait plus entendre parler des chefs de courant. Bien, mais ils lui ont bien rendu, parce que un an après, certains, y compris comme Claude Bartolone, je me souviens, demandaient son départ. Et François Mitterrand n'a pas pu tenir. Il a dû renvoyer Edith Cresson. Et appeler Pierre Bérégovoy à la rescousse dans des conditions extrêmement périlleuses, en un an de temps. Pierre Bérégovoy, pour qui j'avais beaucoup d'estime, d'amitié, d'admiration, n'a pu redresser la barre, et de surcroît on l'a accablé, affublé avec des sombres histoires qui ne méritaient pas ce torrent d'insultes et véritablement, on l'a bien vu comment ça s'est terminé, de calomnie, à tel point qu'il s'est suicidé dans les conditions que vous avez, le 1er mai 1993.
Le long du canal
le
du
long
Nivernais.
Du canal du
c'est
Nivernais.
D'ailleurs Pierre Bérégovoy qui vous offre votre premier poste de ministre, puisque
exact.
Vous êtes nommé donc ministre des Relations
non,
avec le Parlement.
Il voulait me nommer ministre des Relations avec le Parlement en 1992, et j'ai refusé. Jospin était viré du gouvernement sans explication. Et au nom d'une sorte de renouvellement, ni Poprenne ni Jospin ne faisaient partie d'équipe gouvernementale, et Pierre Bérégovoy m'a appelé en me disant « Écoute, voilà, Mitterrand voudrait que tu sois ministre des Relations avec le Parlement, moi aussi, parce que t'es de la Nièvre, on t'aime bien, il te connaît bien ». J'ai dû décliner, à la fois parce que par fidélité à Jospin, je sentais pas, et puis je savais que Bernard Tapie rentrait dans le gouvernement. Et,
ah, vous ne l'aimez pas, Bernard Tapie. Hein.
C'est pas que je ne l'aime pas.
Alors, vous permettez, je vais juste citer ce que vous écrivez de lui. Vous écrivez « Je n'ai toujours pas compris pourquoi un homme aussi brillant, cultivé et bien éduqué que François Mitterrand s'est entiché de ce battleur de foire, businessman et aventurier au point d'en faire un ministre de la ville, en réalité un ministre des illusions. » Bref, Tapie n'a jamais rien eu à faire à gauche. L'actualité récente me donne d'ailleurs raison lorsqu'on voit qu'il a fini par rallier Sarkozy et qu'après des négociations avec le ministre de l'économie et des finances, il a touché un pactole de 210 millions d'euros dans l'affaire qu'il opposait au Crédit Lyonnais.
Bah écoutez, je l'ai écrit, je le confirme devant vous, je pense que Bernard Tapie a des qualités, je l'ai entendu chantonner, ça n'était pas si mal, je l'ai vu jouer dans des feuilletons télévisés avec le commissaire Valence, c'était pas si mal. Sa manière de gérer les balances Terraillon, je crois, ou je sais plus lesquelles c'était, le Adidas, on en pense qu'on en veut, mais bon, peut-être avait-il du talent, y compris pour diriger l'OM, mais franchement, je pense qu'il n'a pas les qualités, la rigueur, je dirais le sens moral indispensable, une forme d'éthique indispensable en politique. Voilà pourquoi en 92, ça a été un des éléments qui fait que j'ai hélas refusé à Pierre Bérégovoy de devenir son ministre des Relations avec le Parlement. Vous aurez constaté, petit clin d'œil, qu'en 97, quand Lionel Jospin est élu Premier ministre, je le dis dans le livre, il me demande de devenir son ministre des Relations avec le Parlement. Sorte de clin d'œil comme quoi je crois que Lionel Jospin aussi avait apprécié ma résistance et j'avais préféré choisir la fidélité à Lionel Jospin
plutôt que de répondre aux sirènes du pouvoir.
Hein. Voilà.
Alors, le 8 janvier 1996, François Mitterrand s'éteint dans l'appartement dont j'ai oublié, rue Frédéric Leplay.
Leplay.
Alors, évidemment, la disparition de François Mitterrand, vous allez vous incliner devant la dépouille.
Oui, parce
de l'ancien
que pour moi, c'est une page d'histoire qui se tourne. Une belle page d'histoire de la République, de la gauche. C'est pour moi aussi un déchirement. Depuis j'ai perdu mon père, ce fut un autre déchirement. Mais là, en politique, François Mitterrand, ça a été, je dirais, la statue qui a fait que la gauche a gouverné ce pays. Alors que personne n'imaginait que cela fût possible. Donc c'est une grande tristesse. Je savais sa maladie, je savais sa souffrance, je savais son état.
Mais il a beaucoup menti quand même sur son état de santé.
Oui, il a menti par omission, au moins. Mais bon, voilà, il a été aussi en même temps extrêmement courageux. C'est un modèle de courage, de détermination. Il souffrait et il feignait de ne pas souffrir. On m'a raconté qu'en peu avant de quitter l'Élysée, il remettait des décorations, la Légion d'honneur, à une série de personnalités. Et il a eu un mot pour chacun, un discours pour chacun, sans note. Donc sa maîtrise intellectuelle, sa capacité était intacte. Il souffrait physiquement parce que le cancer le rongeait. Voilà, je pense qu'il vaut mieux faire la transparence et éviter cette espèce de parcours de souffrance qu'il a lui-même subi et accepté. Mais je ne peux que m'incliner et je puis vous dire que j'étais très attristé, très affecté, comme beaucoup d'autres, comme tant d'autres, quand le 8 janvier 1996, Pierre Joxe m'a appelé pour me dire, tu sais, François Mitterrand est mort.
Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers, nus et maigres, tremblants, dans ces wagons plombés, qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps, leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans hâte du temps, survivre encore un jour, une heure, obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêt et de départ qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. Il s'appelait Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu, d'autres ne priez pas, mais qu'importe le ciel, qu'il voulait simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux? Ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge, les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Les Allemands guettaient du haut des miradors. La lune se taisait comme vous taisiez, en regardant au loin, en regardant dehors. Votre chair était tendre à leur chien policier. On me dit à présent que ces mots n'ont plus cours, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le sang sèche vite en entrant dans l'histoire, et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Mais qui donc est de taille à pouvoir m'arrêter? L'ombre s'est faite humaine, aujourd'hui c'est l'été. Je twisterai les mots s'il fallait les twister, pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez. Vous étiez 20 et 100, vous étiez des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés, qui déchiriez la nuit de vos ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez 20 et 100.
Nuit et brouillard de Jean Ferrat, un choix de notre invité, Daniel Vaillant, venu ce soir devant les micros de Radion nous présenter son dernier livre, Parti Socialiste, 40 ans d'histoire, paru aux éditions de l'Archipel. Alors on avance un petit peu dans notre déroulement de l'histoire de cette gauche socialiste. En juin 1997, cohabitation cette fois-ci en faveur de la gauche, donc Lionel Jospin devient Premier ministre. Vous devenez donc ministre chargé des relations avec le Parlement. Alors, évidemment, il y a eu des affaires très importantes. Je les passe. C'est juste pour rappeler quelques événements à nos auditrices et auditeurs. Il y a l'assassinat du préfet Erignac. Ça aussi, c'est quelque chose d'absolument inédit dans notre République, l'assassinat d'un haut représentant de l'État en région.
Oui, Jean-Pierre Chevènement était ministre de l'Intérieur quand ce drame s'est noué à Ajaccio, où le préfet Erignac était assassiné lâchement. Et donc, bien évidemment, ce fut un choc. Il fallait retrouver les auteurs. Ça a été assez laborieux. Les commanditaires ont été quand même identifiés. C'est la houlette de la direction de la police judiciaire, avec notamment messieurs Rioux et Marion. Et puis, il y a eu tout ce qu'on sait derrière, la nomination de monsieur Bonnet par Jean-Pierre Chevènement, qui voulait vraiment monsieur Bonnet. Et l'affaire dans l'État, l'affaire des paillotes, enfin des affaires.
Enfin, il y a Yvan Colonna aussi, quand même.
Et puis la recherche d'Yvan Colonna.
Alors ça, c'est quand même incroyable, parce que pour vous, socialistes, Yvan Colonna, c'est le fils d'un ancien député socialiste.
Oui, le fils de Jean-Hugues Colonna, que je connaissais bien, que j'appréciais beaucoup, qui a été député de Nice, il n'était pas député de Corse. Mais c'est vrai que quand on a découvert que Yvan Colonna pourrait être le tueur, ça a été là aussi un effroi. Je dois vous dire que, y compris comme ministre de l'Intérieur, nommé après, c'était un début que le Premier ministre m'avait fixé, la sécurité, l'arrestation d'Yvan Colonna, etc. C'était extrêmement net. Et je n'ai jamais eu de contact avec Jean-Hugues Colonna. Je me l'interdisais. Lui-même devait être dans la souffrance, dans l'ignorance peut-être, je n'en sais rien. En tout cas, ça a été un épisode pénible de la période dans laquelle nous avons été aux responsabilités aux côtés de Lionel Jospin entre 1997 et 2002. Alors, et ça l'est encore aujourd'hui parce que, bon, il a été condamné, sanctionné, il a purgé sa peine. J'ai trouvé à l'époque que l'arrestation d'Yvan Colonna de la part du ministre de l'Intérieur, qui était pour le coup en 2003...
Nicolas Sarkozy. Qui vous a donc succédé.
Qui m'a succédé à ce poste de ministre de l'Intérieur, et bon, les conditions dans lesquelles il a été arrêté, surtout les conditions les commentaires du ministre de l'Intérieur en disant « Nous avons arrêté l'assassin du préfet Erignac ». J'ai trouvé là qu'il y avait déjà un ferment de... Voilà, on affirme, on communique, on en fait trop. Juste avant le référendum déclenché intempestivement par Nicolas Sarkozy, et on sait que les Corses, y compris, ont répondu non.
Alors, en septembre 1998, il y a l'hospitalisation de Jean-Pierre Chevènement. Là aussi, ça a été l'homme miraculé qui sortait du coma, alors après une banale opération de la vésicule biliaire.
Oui, tout à fait. Problème d'anesthésie. Bon, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. En tout cas, ça a été vécu comme un drame par le Premier ministre. J'étais à ses côtés quand on s'est tenu au courant de l'évolution d'état de santé de Jean-Pierre Chevènement et on était très heureux qu'il revienne à la vie et aux responsabilités Place Beauvau après que Jean-Jacques Kerran ait assuré l'intérim. C'était tellement important pour Lionel Jospin qu'il n'a pas procédé à une nomination d'un nouveau ministre de l'Intérieur. Il a laissé Jean-Pierre Chevènement en titre et c'est Jean-Jacques Kerran qui a assuré l'intérim. Jean-Pierre Chevènement est revenu et manifestement il a décidé à l'époque de prendre ses distances, notamment sur le dossier Corse, qui fut pour moi plus un prétexte qu'une véritable opposition, et pour essayer d'être candidat à la présidentielle, de se frayer un espace, un chemin, et ce qui l'a conduit à une forme de dissidence dont il avait déjà eu l'occasion de montrer qu'il en était capable en quittant le gouvernement de Pierre Mauroy en 1983, en repartant du gouvernement au moment de la guerre du Golfe en 91, et il a récidivé, j'ai envie de dire, avec son départ en août 2000, où il a quitté le gouvernement Lionel Jospin, qui lui avait pourtant tendu la main en 97, parce que rappelez-vous, Jean-Pierre Chevènement avait fait 1% aux européennes qui précédaient. On ne peut pas dire qu'il avait le vent en poupe. Et Lionel Jospin a sans doute pensé qu'il pourrait, lui, réussir ce que François Mitterrand n'avait pas réussi, c'est-à-dire l'amarrer à l'aventure collective. ça a été au-dessus de ses forces. Et Jean-Pierre Chevènement a requitté le gouvernement, ce qui fait d'ailleurs que Lionel Jospin a fait appel à moi pour devenir ministre de l'Intérieur. Donc,
vous avez été ministre de l'Intérieur durant 22 mois, que vous qualifiez d'exténuant mais exaltant.
Pour un ministre de l'Intérieur, 22 mois, c'était bien. Avoir un cabinet avec 22 membres, c'est pas mal, parce que on sait bien que le ministre de l'Intérieur incarne quand même plutôt la police. Alors le chiffre 22 est assez mythique.
Ah oui, effectivement. Et 17 policiers pour votre sécurité, alors que Sarkozy a la même fonction que vous, à l'Intérieur, en avait 30.
Oui,
vous
voilà.
Vous dénoncez quand même parfois.
Je pense qu'il avait...
Vous aimez bien taper sur Sarkozy quand même.
Oh, écoutez, on a eu une passation de pouvoir.
Pardonnez-moi, Vaillant. 8 mai 2002, donc passation de pouvoir au ministre de l'Intérieur. Vous accueillez Nicolas Sarkozy, qui devient ministre de l'Intérieur. Vous pensiez qu'il pourrait devenir... président de la République.
Je savais qu'il le souhaitait. Jeune loup de la droite. Et je n'ai pas compris que Jacques Chirac l'ait nommé ministre de l'Intérieur. Un ministre de l'Intérieur ne doit pas être candidat à l'élection présidentielle.
Alors, vous écrivez de Nicolas Sarkozy au moment de cette...
Passation de pouvoir.
Économiser les deniers publics n'est pas sa première préoccupation. Pour se déplacer, il, Nicolas Sarkozy, prend un Airbus de l'ETEC, l'escadron de transport, d'entraînement et de calibration, alors que j'utilisais à son poste un vieux Beechcraft de la sécurité civile dans lequel seul un journaliste pouvait prendre place, et encore de manière très incontrôlable. Mais...
Inconfortable,
pardonnez-moi. Mais voilà, Sarkozy veut cajoler la presse, la séduire, voire l'enrôler. Mais c'est pour cela qu'il a été élu président de la République, c'est parce qu'il a su câliner un peu la presse, ce que, par exemple, Lionel Jospin ne savait peut-être pas faire.
C'est possible, mais il a été élu président de la République et pourtant il n'a pas réussi dans ce poste. Voilà pourquoi je pense qu'il faut des hommes d'État qui aiment ce qu'ils font, qui servent l'intérêt général, qui servent l'État. L'État doit avoir un sens pour les hommes d'État. Et il faut qu'ils sachent quelquefois s'oublier et se forger la statue, se forger la stature d'homme d'État nécessite de la rigueur, de l'éthique et effectivement d'être économe des deniers publics. Même si c'est tentant quand on a le pouvoir d'utiliser les moyens que l'État peut mettre à votre disposition. Mais on ne peut pas serrer la vis de la majorité des Français. C'est un débat d'aujourd'hui.
Oui.
Creuser les déficits, accentuer considérablement la dette et en appeler à la rigueur pour tout le monde. Ça, sans parler du bateau de Bolloré, sans parler du Fouquet. Sans parler de l'avion présidentiel d'aujourd'hui. Je pense que Nicolas Sarkozy a une approche du pouvoir. Je ne suis pas sûr qu'il aime l'État, mais il aime un État qui le sert dans sa démarche personnelle, dans son ambition qui reste une ambition excessivement personnelle. Je pense qu'il faut avoir de l'ambition collective. Et quand on aime un pays, quand on aime son pays... On veut d'abord le servir plutôt que de s'en servir.
Ce sera, à mon avis, un excellent mot de la fin. Daniel Vaillant, merci à vous d'avoir répondu aux questions de l'émission littéraire de Radion, Wagon Livre. Je rappelle donc votre livre PS, 40 ans d'histoire du congrès d'Épinay à nos jours. Donc, c'est signé de Daniel Vaillant, qui est donc actuellement député et maire du 18e arrondissement de Paris. Et c'est aux éditions de l'Archipel. Merci Daniel Vaillant.
C'est moi qui vous remercie.
Toi qui marches dans le vent, seul dans la trop grande ville, avec le cafard tranquille du passant. Toi qu'elle a laissé tomber pour courir vers d'autres lunes, pour courir d'autres fortunes, l'important. L'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, crois-moi. Toi qui cherches quelque argent pour te boucler la semaine, dans la ville tu promènes ton ballon. Cascadeur, soleil couchant, tu passes devant les banques. Si tu n'es que saltimbanque, l'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. Toi, petit, que tes parents ont laissé seul sur la terre, petit oiseau sans lumière, sans printemps. Dans ta veste de drap blanc, il fait froid comme en Bohème. T'as le cœur comme en carême, et pourtant l'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. Crois-moi. Toi pour qui, donnant, donnant, j'ai chanté ces quelques lignes, comme pour te faire un signe en passant. Dis à ton tour maintenant que la vie n'a d'importance que par une fleur qui danse sur le temps. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. Crois-moi. C'est la rose. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. Crois-moi.
Wagon Livre touche à sa fin. Je rappelle les références du livre de notre invité, Daniel Vaillant, Parti Socialiste 40 ans d'histoire, avec pour sous-titre Du Congrès d'Épinay à nos jours, livre disponible en librairie aux éditions de l'Archipel. Quelques informations culturelles pour les jours à venir. Tout d'abord, sachez que Sandra Amani, auteure, professeur de lettres au Collège de Chablis, dédicacera son album de bande dessinée Les Légendes du Morvan et son recueil de contes Légendes du vignoble. Eh bien, Sandra dédicacera ses ouvrages à la Maison de la Presse de Chablis dimanche 9 octobre prochain de 10h30 à 12h30. Et puis, toujours le dimanche 9 octobre de 10h à 18h, ne manquez pas la 8e édition du Salon du Livre de Migennes. Pour cette édition 2011, Didier Deninx est l'invité d'honneur, mais vous pourrez également y rencontrer le comédien Richard Boringer, qui dédicacera son dernier roman paru chez Flammarion et qui a pour titre « Les nouveaux contes de la cité perdue ». Mais on attend aussi Jane Manson, le journaliste sportif Thierry Roland, la jeune Camille Paquin, jeune poétesse qui aura le plaisir de dédicacer son deuxième recueil de poèmes. Mais on attend un très très grand nombre d'auteurs et d'éditeurs. Par exemple, Marie-Gilles, Philippe Berthelangereau, Noël Renaud, Jean-Pierre Fontaine, Vicky Cornaille, Marion Sigaud et Jean-Charles Couny. Jean-Charles Couny qui sera notre invité la semaine prochaine dans Wagon Livre. Paysan écrivain nivernais, et bien Jean-Charles Couny viendra nous présenter son dernier roman qui a pour titre La Parisienne, rencontre d'une jeune fille parisienne dont les parents possèdent une maison dans le Morvan et qui va tomber amoureuse d'un jeune agriculteur de 40 ans. C'est le rendez-vous que je vous propose mercredi prochain, 12 octobre, à partir de 21h. Pour l'heure, excellente soirée en compagnie du programme musical de Radion. Merci de votre fidélité. Rendez-vous mercredi prochain. Au revoir. Thank you.